Nous voulons ensemble ouvrir la parole de Dieu et la méditer quelques instants. Je voudrais vous lire un texte du prophète Jérémie au chapitre 8 à partir du verset 18. Parole de quelqu'un qui connaît la souffrance, qui a connu l'horreur et qui dit son cri, sa prière, ses sentiments. Jérémie 8, verset 18. Je voudrais surmonter mon tourment, mais mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici que les cris plaintifs de la fille de mon peuple viennent d'une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur statut, par leurs vanités étrangères? La moisson est finie. L'été est passé et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis sombre, la désolation me saisit. N'y a-t-il plus de baume en Galade? N'y a-t-il plus de médecin là-bas? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Si on me donnait au désert un gîte pour les voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. C'est le prophète qui parle. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi la plaie de mon peuple ne peut-elle se fermer? Ce cri du prophète Jérémie à propos de son peuple nous rejoint et nous saisit à des siècles de distance. La blessure infligée par ces actes abominables de terrorisme est impossible à mesurer. Nous avons vu des images, mais nous n'avons pas été sur les lieux, même face à l'horreur. Nous entendons des témoignages, mais nous n'avons pas été saisis, nous-mêmes, par l'angoisse des tirs et des morts autour de nous. Comment ceux qui ont échappé s'en sortiront-ils? Combien de temps resteront-ils hantés par ce qu'ils ont vécu, prisonniers dans leur mémoire? Et ceux qui ont perdu un être cher dans cette barbarie, comment s'en relèveront-ils? Les bilans chiffrés n'ont cessé de grimper. Ils sont devenus de plus en plus inconcevables, impossibles à intégrer. D'abord un attentat, c'est déjà immense, puis deux, puis sept. En début de soirée vendredi, on osait parler d'une dizaine de morts, c'était déjà l'horreur absolue. Il a fallu multiplier ces chiffres par trois, par quatre. Après le Bataclan, on est passé à 120. Et on découvre, dans les derniers bilans, qu'une centaine de blessés sont en urgence absolue. En plus, il y a 250 autres blessés. On ne comprend pas ces chiffres. Qui peut imaginer ça? Et chaque blessé, chaque mort, c'est tout un cercle de relations en souffrance absolue. Une blessure indicible. La douleur de mon peuple est ouverte. Mais la blessure, c'est aussi le choc, la soudaineté, l'insécurité, la peur. Peut-on encore boire un café sur une terrasse? Peut-on encore fêter un anniversaire au restaurant? Peut-on encore passer un bon moment dehors où il fait bon? Peut-on encore aller à un concert? Et dans le métro, qui sait si l'un de nos voisins ne serait pas bardé d'une ceinture d'explosifs? Blessure encore que cette froideur inhumaine d'hommes qui abattent de sang-froid non pas des ennemis ou des agresseurs, mais des innocents dont le seul tort est d'être là. C'est nous cela? C'est nous les humains? On aimerait tellement dire que ce sont eux, qu'ils ne font plus partie des hommes, mais nos bombes à nous en Syrie, dont on nous assure qu'elles sont ciblées propres. Combien de victimes innocentes ont-elles faites, elles aussi? Et ce sont nos bombes. Des hommes et des femmes qui, là-bas, comme ici, ne demandaient qu'à vivre tranquillement. Notre humanité est mal en point, très mal en point, partout, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. N'y a-t-il pas de baume à cette blessure? N'y a-t-il pas de baume à cette blessure? Et voilà désormais une religion, une communauté, une fois de plus, montrée du droit, accusée, suspectée. Des musulmans qui habitent parmi nous, qui ne veulent que la paix, sont regardés et jugés, et vont l'être de plus en plus comme s'ils étaient des terroristes en puissance. Les discours d'exclusion vont se multiplier, se radicaliser, c'est porteur, ça marche. Il y a du chiffre. Les généralisations aussi, qui appliquent à tous ce qui n'est le fait que de quelques-uns. Allons-nous participer à ces discours? À ces peurs? Allons-nous laisser la discorde, la suspicion, la haine gangréner notre esprit, gangréner notre manière de penser? Y a-t-il un baume en Galade? Un apaisement de tout ce qui peut naître en nous aussi, et nous parasiter, nous aussi? Un mot peut-être sur l'expression qu'emploie Jérémie, un baume en Galade. Pourquoi Galade? Galade désigne une région montagneuse au nord-est du pays d'Israël, de l'autre côté du Jourdain par rapport à Jérusalem où était Jérémie. Ça correspond au nord de la Jordanie actuelle. Une région riche en pâturages, en diverses essences végétales. On y fabriquait des baumes, des aromates. Mais Galade, c'est aussi pour le citadin qu'est Jérémie à Jérusalem, l'évocation du pays où coule le lait et le miel promis par le Seigneur, cette belle végétation, comme nous à Paris quand on parle d'être au vert. Et puis Galade, pour Jérémie, c'est aussi l'autre côté du Jourdain. Symboliquement, ça parle d'un autre côté, la réalité, d'un autre côté de la réalité qui parfois est trop blessante et que l'on connaît soi-même. C'est d'ailleurs le sens de l'expression qu'a pris cette expression, un baume à Galade, dans un fameux Negro spiritual. Il dit « There is a balm in Gilead ». Le baume de Galade dans ce chant renvoie au salut que Jésus donne. C'était un chant chanté par les esclaves, par ceux qui étaient méprisés aussi. Il parlait de cette consolation que le Seigneur apporte aux villes les plus dévastées. Voilà ce que dit ce Negro spiritual, il y a un baume en Galade pour restaurer celui qui est blessé. Il y a un baume en Galade pour guérir l'âme blessée par le péché. Parfois je me sens découragé, je pense agir en vain. Alors l'Esprit Saint ranime mon âme, il y a un baume en Galade. Si tu ne peux pas chanter, dit la deuxième strophe, si tu ne peux pas chanter comme les anges, si tu ne peux pas prêcher comme Paul, tu peux dire l'amour de Jésus et dire qu'il s'est donné pour tous. Il y a un baume en Galade. Que c'est touchant, que c'est bienfaisant d'entendre ces paroles jaillies au creuset de la souffrance et qui apportent, qui disent la paix intérieure, le réconfort. Il y a un baume en Galade, un apaisement aux blessures profondes et douloureuses. Et pour notre situation, y a-t-il un baume en Galade? D'où viendra-t-il ce baume, cet apaisement? Viendra-t-il de la vengeance? Leur faire payer ce qu'ils nous ont fait subir? Devant l'horreur, devant l'atroce sentiment d'impuissance face à la barbarie, des bouffées de violence nous saisissent. pour conjurer cette impuissance et dire notre rejet total d'actes aussi abominables. Et si on suivait ces pulsions, on serait prêt à écraser, à massacrer ceux qui ont fait cela. Cela nous habite, cela nous traverse. Soyons prêts à répondre par l'excès pour avoir subi l'excès, pour retrouver la force de l'action après avoir dû subir passivement sans rien faire. Il nous faut bien entendre en nous l'appel de cette riposte. Il dit le rejet du mal subi, il dit l'horreur inacceptable de cette barbarie. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Bible des psaumes d'imprécation où la parole exprime tout l'inacceptable du mal. Mais l'étape suivante, après avoir dit l'inacceptable du mal, c'est de faire un pas de plus et de se rappeler que la vengeance n'est pas un remède, n'est jamais un remède, n'est jamais un baume. Commettre l'atrocité à notre tour après l'avoir subi n'apporte rien, ne guérit rien. C'est juste de l'huile versée sur le feu qui alimentera de nouvelles violences, de nouvelles ripostes dans un cycle sans fin. Et la démonstration nous en est faite en permanence dans notre monde. Ça veut dire que nous devons prier pour la justice, mais non pour la violence. Pour la justice et non pour la violence. Que le mal soit puni, oui, mais de manière proportionnée. Que ceux qui ont commis de tels actes ou qui en ont été complices soient condamnés, jugés, désignés à l'opprobre, à la honte pour ce qu'ils ont fait, oui. Et qu'ils payent pour leur abomination, oui. Si d'autres s'entraînent et se préparent à faire de telles choses, il est juste aussi qu'ils soient arrêtés. On leur oppose la force. On oppose la force à ces entreprises meurtrières. C'est légitime. Mais tout cela doit être proportionné. Et nous devons garder le souci de la proportion. Le garder, le souhaiter en notre cœur. Le demander pour nos dirigeants. Le demander de nos dirigeants. Quant à ceux qui se sont explosés pensant gagner le paradis, sachons que c'est l'enfer qui les attend. Par le juste jugement du Dieu souverain qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il est possible, aujourd'hui déjà, comme le riche insensible au malheur du pauvre Lazare de la parabole de Jésus, ces personnes éprouvent la dure réalité du juste jugement de Dieu et la totale méprise de leur aveuglement religieux et fanatique, eux qui espéraient le paradis de leur martyre et de leur folie meurtrière. Y a-t-il un baume en Galade ? Il n'est peut-être ce baume que du côté de la justice, de la proportion. Mais la justice ne rendra aucun mort, aucune victime. La blessure du mal est faite, mais seule la justice peut apaiser et pacifier un peu. Nous devrions prier aussi, peut-être, je suggérerais, pour que, aussi souvent que possible, le mal soit vaincu, que le mal soit réduit à l'impuissance, qu'il ne triomphe pas et qu'il n'encourage pas d'autres à le perpétrer. Délivre-nous du mal. J'ai l'impression que pour ceux qui glorifient le mal comme le signe de leur force, il faudrait une multitude, une multiplication d'échecs lamentables de leurs opérations. Des barrages systématiques à leurs tentatives, la preuve publique que ça mène à rien. Et c'est pour ça qu'il faut s'opposer au terrorisme par la force, par l'intelligence, et qu'il faut y mettre des moyens. Il faut aussi que nous restions debout face à ces menaces, que nous restions debout, forts et courageux, en tant qu'individus, en tant que peuple, pour que ces mauvais desseins ne triomphent pas. Il faut aussi que nous gardions notre âme et nos valeurs en tant que Français, en ce qui nous concerne en tant que chrétiens et Français, car notre citoyenneté est dans les cieux et notre identité profonde est ce qui découle de notre appartenance à Jésus-Christ. Ayons à cœur donc la justice, la résistance qui fait barrage au mal. Prions pour que cette justice prévale, se manifeste. Mais veillons aussi sur nous-mêmes pour rester justes dans nos sentiments, dans nos paroles, dans nos prises de position. Même nos prières doivent devenir pour nous une école de justice. Et c'est pourquoi nous l'avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul demande fermement « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, des mains pures. » Sans colère ni contestation. Et ça s'applique à nous aujourd'hui aussi face à ce que nous vivons. Veillons à garder, à préserver à la source de notre être cette pureté d'attitude, ce refus des mouvements intérieurs dévastateurs et rancuniers et revanchards. Y a-t-il un baume en Galade ? La justice est nécessaire pour dénoncer, pour condamner le mal. Mais la vraie victoire sur le mal va plus loin. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et Paul ici nous fait passer un cran au-dessus. Et il nous encourage, face au mal, parfois tellement dévastateur, à poursuivre avec d'autant plus d'ardeur la recherche et l'amour du bien. Le philosophe René Girard, décédé récemment, a mis en lumière l'une des racines de la violence, c'est le mimétisme, imiter, reproduire ce qui a été fait. Reproduire à l'identique. Tu m'as fait, je te fais. Le mimétisme nous construit, c'est ainsi que les enfants apprennent. Mais ce mimétisme est aussi la source de la violence. Tu m'as fait, je te fais. Et Paul, ici, nous invite à dépasser ces engrenages funestes. Tu m'as fait, je garde mes valeurs. Tu m'as fait. Je garde mes valeurs. Je garde mon âme. Tu m'as fait, je reste attaché à ce que je sais être le bien. Tu as cherché à me pousser au-delà de mes limites vers ce que je ne voudrais pas être ni devenir, mais tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas cette victoire. Tu n'auras pas cette victoire sur mon âme. Et c'est cela qui désarme vraiment le mal. C'est la voie que Jésus nous a montrée lors de sa passion, face au déchaînement de la violence. Il est demeuré intègre, il est resté aimant, il a continué à tracer le chemin de salut pour nous, ce chemin que le Père lui avait fixé. Et il a triomphé en agissant ainsi. C'est la voie illustrée par un Martin Luther King, là encore, en disant « Je ne me laisserai pas saisir par la haine, j'y opposerai ma force, mais je ne perdrai pas mon âme. » Et quelle est la voie qui demeure aujourd'hui ? Celle de Martin Luther King ou celle des racistes qui s'opposaient aux Noirs aux États-Unis ? C'est cette voie que tiennent aussi dans la persécution ceux qui restent fidèles à celui en qui ils croient, qui restent fidèles à ce en quoi ils croient. Et personne ne peut rien contre cette force-là. Personne ne peut rien contre cette force-là. Face au mal subi, au mal violent, dévastateur, il nous faut nous revêtir encore plus consciemment, encore plus résolument de la volonté de faire le bien. Ne rendez à personne, nous dit, le mal pour le mal, nous dit l'apôtre Paul. Et il montre par là qu'il est vraiment devenu un disciple de Jésus, lui qui était violent, fanatique et persécuteur. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. La vraie réponse, le vrai baume, il est là. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, verset 12. Alors quand on pense à surmonter le mal par le bien, on bascule très vite dans un modèle unique d'application. Ça veut dire qu'il faut qu'on aime nos ennemis. Et c'est vrai que Jésus nous a donné cela comme horizon ultime. Mais cet amour pour l'ennemi, il faut bien le dire aujourd'hui, est rarement un point de départ. C'est plutôt un chemin qui nous est demandé. Dans notre contexte d'attentat meurtrier, j'ai parlé de justice et de justice proportionnée. Et cela déjà va dans le sens de la considération de l'autre. Mais il faut bien que nous saisissions qu'il y a une autre façon de surmonter le mal par le bien que celle qui consiste simplement à aimer spécifiquement l'ennemi. C'est d'être globalement, dans l'ensemble de notre conduite, d'autant plus zélé à faire le bien que nous avons été témoins des effets dévastateurs du mal. Et ça concerne pas simplement l'ennemi ou la personne qui est venue agresser la France, ça concerne notre attitude en général. Nous avons été les témoins effarés du mal. Devenons des porteurs de bien. Dans tout ce que nous faisons, soyons zélés, donnons cette réponse-là à cette horreur. Notre victoire, me semble-t-il, c'est de cultiver en nos cœurs et face à une situation comme celle que nous vivons, une résolution à faire le contraire de cela dans toutes nos attitudes. Une résolution à agir pour le bien, à cultiver dans toutes nos attitudes, pour autant que ça dépend de nous, le bien à faire, les bonnes dispositions, à rehausser tout cela pour que ce ne soit pas englouti par les déferlantes du mal. La réponse au mal que nous avons subi à Paris, nous pouvons la donner dans tout ce que nous faisons, en décidant que oui, nous voulons être et rester généreux. Oui, nous voulons être et rester bienveillants. Oui, nous voulons être et rester compatissants. C'est notre choix en face de ces horreurs, en réponse à ces horreurs. Ils n'auront pas notre âme. Ils n'auront pas notre âme. Nous voulons continuer là où nous le pouvons, à secourir, à aimer notre prochain, à être utile, oui, si nous le pouvons, envers d'éventuelles victimes de cette barbarie, mais aussi plus largement à faire le bien aux uns et aux autres pour apporter un contrepoison à tout ce venin funeste. Nous voulons rester justes dans notre regard sur les autres, dans notre accueil de l'autre, dans nos rapports avec les gens d'origine et de cultures différentes. Un Syrien s'est fait exploser au Stade de France. Tous les réfugiés syriens ne sont pas des kamikazes. Tellement d'entre eux sont des victimes. Nous devons veiller à penser comme cela, face aux amalgames qui viennent si vite. Nous devons le dire. Peut-être avoir un petit geste à notre portée qui le manifestera. Si nous croisons un Syrien, une Syrienne, un enfant syrien, là-bas, à la porte de Saint-Ouen. Y a-t-il un baume en Galade? Une résolution accrue à faire le bien dans toutes nos sphères de relations fait partie des réponses apaisantes, réparatrices, que nous pouvons donner. C'est pour ça qu'il était si bon de nous laisser laver par ces textes du Nouveau Testament qui nous rappellent que Dieu est amour, que l'amour est de Dieu, et que c'est en aimant que nous manifesterons quelque chose de notre Dieu sur la terre, où il y a bien des angoisses et bien des ténèbres. Y a-t-il un baume en Galade ? Rappelons pour finir que Dieu veut être aussi ce baume pour celles et ceux qui s'approchent de lui. Dieu veut être celui qui non seulement apaise nos souffrances et nos douleurs, mais encore qui guérit nos sentiments, nos réactions contaminées par le mal. Il veut mettre aussi un baume sur nos peurs, un baume sur nos suspicions injustes, un baume sur notre regard sur les autres. Ce baume, il nous le donne dans la mesure où nous nous approchons de lui, où nous cherchons toutes nos sources et nos ressources en lui. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Laissons Dieu être pour nous cette source intérieure et ce renouvellement. Laissons sa parole, ses promesses, sa présence nous apaiser, nous réconforter, nous rendre forts. Il nous faudra encore marcher dans Paris. Il nous faudra encore entrer dans des bus, dans le métro. Il nous faudra encore faire nos courses au supermarché. Bientôt, il nous faudra encore passer des heures dans les lieux publics pour la banque alimentaire et sa collecte. Il y a encore du bien à faire autour de nous, encore de la bonté à manifester, encore des confiances à donner. Dieu veut être celui qui nous donne la force et les ressources, pour tout cela, envers et contre tout. Et bien sûr, nous pensons tout spécialement à ceux qui souffrent plus particulièrement. Et notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Nous vivons dans un monde de plus en plus blessé par le mal. Personne ne peut le nier. L'action des hommes est utile et nécessaire pour le bien, mais elle reste entachée et limitée par le mal, elle aussi. Quel baume ultime ! Nous n'avons pas, nous les humains, la recette. Mais nous attendons du Seigneur qu'il accomplisse, lui, ce qu'il a promis. Qu'il accomplisse, lui, ce que nous ne pouvons pas accomplir pour la terre. Il promet de revenir, il promet d'agir, il promet de renouveler toutes choses. Je suis frappé de voir l'évolution des slogans sur les réseaux sociaux. En janvier, on proclamait « Je suis Charlie », une affirmation personnelle « Je suis ». Ouais. Aujourd'hui, les slogans ressemblent un peu plus à des prières, à des vœux. « Paix pour Paris », « Prions pour Paris », « Priez pour Paris ». Nous avons besoin de plus que de simples positionnements à notre portée humaine. Notre Dieu, il nous l'a promis, fera toute chose nouvelle. Cette promesse est attestée en Jésus-Christ, mort et ressuscité, désormais assis à la droite de Dieu. Nous attendons son retour. Cette promesse n'est pas pour nous un oreiller de paresse. Elle doit nous conduire au contraire à ne pas nous lasser de faire le bien. Mais elle nous donne une orientation, une espérance, tout en assurant nos fondements, notre recours, notre ancrage, notre identité sont en lui. Je suis le Seigneur, l'Éternel, qui te guérit, disait le Seigneur à Israël. Nous attendons cette guérison finale, radicale, profonde de notre humanité. Et l'éradication du mal par le jugement de toutes choses, par le Christ. En attendant, ne nous lassons pas, ne nous lassons jamais, sous aucun prétexte, de faire le bien. Seigneur, aide-nous, les artisans de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Amen.